Bon, donc je suis très heureuse que Joël Chandelier ait accepté cette journée et de réfléchir au thème que j'avais proposé, donc qui est la réception finalement des auteurs médiévaux à la Renaissance. Et il va parler de médecine et particulièrement de médecine arabe et dans la manière dont les médecins de la Renaissance vont réutiliser les textes des grands médecins, pardon, j'ai dit mathématiques depuis le début, non? J'ai
Non,
pas.
non, on comprend.
Donc les grands médecins arabes, voilà.
Merci. Alors moi aussi, bon, je remercie rapidement mais chaleureusement les organisateurs de Poitiers et Sabine pour l'invitation. Je vais faire une présentation plus générale que la magnifique présentation qu'a fait Sabine juste avant, donc un peu moins précise peut-être, pour plusieurs raisons. La raison principale est qu'en fait, sur ce sujet que j'ai proposé, donc sur la médecine arabe à la Renaissance, il n'y a aucune synthèse. C'est un thème qui n'a pas du tout intéressé, qui a intéressé personne quasiment. Il y a quelques ouvrages précis sur certains auteurs arabes, notamment Avicenne, on verra ça. Tout récemment, c'est un sujet quand même qui intéresse petit à petit. Il y a un livre qui vient de sortir là, il y a 1 ou 2 mois, de Dag Hasse, donc un historien qui vit en Allemagne, sur le devenir de la science arabe en général à la Renaissance. Une magnifique synthèse, enfin je dis magnifique parce que je sais qu'elle est bien faite, mais je ne l'ai pas encore lue. Donc peut-être qu'un jour j'en reparlerai plus précisément, mais bon, je sais que ça a été très bien fait. C'est quelqu'un qui travaille là-dessus depuis très longtemps. Donc plutôt une synthèse que je vais vous proposer avec quelques exemples un peu plus précis, bien sûr, pour essayer de voir ce que devient cette médecine arabe à la Renaissance. Alors, si on prend le titre, un peu moins long que ce que j'ai mis là, médecine arabe à la Renaissance, plusieurs problèmes se posent. Si on dit médecine arabe, je pense que tout le monde, même les gens qui ne connaissent rien à l'histoire du Moyen Âge, savent vaguement que au Moyen Âge, enfin à une période vague du Moyen Âge, la médecine arabe était très développée et qu'il y a eu de grands médecins arabes à peu près. Il y a même des films là-dessus. Régulièrement, il y a des hôpitaux qui en France. Notamment à Vicenne, il y a un hôpital à Vicenne, à Bobigny. Donc bref, tout le monde sait que la médecine arabe, à un moment donné, vague, a été importante. Quand on ajoute à la Renaissance, on arrive à 2 problèmes. Le premier est que cette médecine arabe est fortement associée au Moyen Âge. Moyen Âge arabe lui-même et Moyen Âge occidental. Hein. Elle a influencé fortement le Moyen Âge occidental. Ça, je ne dirais pas que tout le monde le sait, mais enfin, quand même beaucoup de gens le savent. En revanche, ce que aussi beaucoup de gens savent, c'est que à la Renaissance, le principe, c'est le retour à l'Antiquité, au texte grec, comme on l'a vu pour les mathématiques, et donc bah, les Arabes sont exclus de cela. Donc, ce que je vais essayer de voir aujourd'hui, c'est que reste-t-il de cette médecine arabe? Que reste-t-il de ce qu'ont apporté les Arabes? Est-ce que ça a été balayé par le travail des humanistes à la Renaissance? Et ou bien est-ce qu'il y a resté quelque chose, et si quelque chose est resté, quoi? Avec cette question qui en fait n'est pas vraiment réglée, c'est qu'est-ce que la Renaissance? Hein, comment concevoir cette période? Alors moi j'ai pris la Renaissance selon. Alors Sabine ne sera pas contre cette idée, puisque à Tours, vous savez qu'il y a un centre d'études supérieures de la Renaissance, et leur slogan c'est de Pétrarque à Descartes, donc du XIVe siècle. Italien jusqu'au début du XVIIe siècle français, enfin oui, français on va dire. Donc prenons la Renaissance sous cet angle-là, très large, avec cette idée hein, que c'est un mouvement. Donc du coup ça dure 2 siècles, hein, même plus que 2 siècles, donc presque 3 siècles. Donc du coup c'est évidemment un mouvement multiple, malgré tout avec quelques caractéristiques qu'on a déjà vues tout à l'heure, que je rappelle rapidement. Retour à une certaine fidélité au texte antique, d'un point de vue notamment philologique, et également hein, une période d'innovation à la fois littéraire et scientifique, comme on va le voir. Alors du coup, puisque c'est de Pétrarque à Descartes, je commence. Alors, je vais non. En fait, excusez-moi, ce sera après. Je commence par Pétrarque. Voilà une citation de Pétrarque qu'il écrit dans une lettre envoyée à un ami médecin. Alors, il détestait les médecins en général, mais il avait quand même des amis médecins. Hein, donc quand il écrit à eux, il dit que la médecine c'est bien, mais quand il écrit à tous les autres, il dit que c'est rempli de fausseté. Voilà donc ce qu'il écrit à un médecin. Avant que je ne m'arrête, ah, il a la fin de sa lettre qui est déjà assez longue. Je te supplie d'une chose, tiens loin de toi, non, bannis-les, tes Arabes, pour tout ce qui a affaire à moi. Je déteste la race entière. Je sais que les Grecs étaient autrefois les hommes les plus talentueux et éloquents du monde. Nombre de philosophes, de grands poètes et de fameux orateurs en viennent. Et cette partie du monde a produit les meilleurs médecins. Mais les Arabes ? Toi, tu sais quel genre de médecins ils sont. Moi, je sais quel genre de poètes ils sont. Donc, ici Pétrarque bannit la médecine arabe, donc au XIVe siècle, au milieu du XIVe siècle, hein, écrit dans les années 1350, cette lettre, au nom de sa connaissance à lui, de la poésie arabe. Alors, connaissance, bon, il dit souvent qu'il connaît très bien la poésie arabe et qu'elle est très mauvaise. Bon, il ne connaissait pas l'arabe, sa connaissance est quand même assez vague. Donc, un peu le fondateur, enfin, un des fondateurs de l'humanisme, pose comme principe de base qu'il faut éloigner les auteurs arabes, y compris en médecine. Ici, en s'adressant à un médecin, il le dira de nombreuses reprises. Une vision plus contemporaine, celle de Lucien Leclerc, qui est le premier à faire une histoire de la médecine arabe, hein, une magnifique synthèse. Hein, il faut voir qu'elle est écrite en 1876, donc évidemment, à tous les défauts qu'elle pouvait avoir à cette époque, mais vraiment un travail remarquable qui fait vraiment une histoire de cette médecine, de ses origines grecques jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et quand on lit cet auteur, il s'arrête en fait fondamentalement au Moyen-Âge. Pour lui, la médecine arabe n'existe quasiment plus après. C'est-à-dire qu'après, ça n'a pas d'intérêt. Ça devient vraiment... Et pourquoi il s'arrête après ? Ce n'est pas tant la stagnation des connaissances médicales, c'est plutôt que le rôle historique de la médecine arabe est terminé à la fin du Moyen-Âge. Voilà ce qu'il dit. « Ce peuple que le fanatisme, donc le peuple arabe, fit le conquérant de la moitié du monde, prit aussitôt pour maître les chrétiens s'est vaincu. Il mit à s'assimiler leur science un tel enthousiasme, une promptitude si merveilleuse, déployant des aptitudes qui semblaient étrangères à la race, donc oui, bon, le style est tout à fait très style 19e siècle, qu'il les eut bientôt dépassés. Pendant 5 ou 6 siècles, donc en gros hein, du 9e siècle jusqu'à à peu près 14e, il tint le sceptre des Lumières et de la civilisation. Il rendit à ses antagonistes barbares les services qu'il avait reçus des chrétiens de l'Orient. Il leur transmit, donc aux latins hein, d'Orient, d'Occident, les sciences dont ils avaient laissé tarir la source. Pendant la seconde moitié du Moyen-Âge, la science arabe défraya l'Occident. » Donc ici, l'idée, c'est que le rôle historique de la science arabe ne couvre que la seconde moitié du Moyen-Âge. Et c'est quoi leur rôle ? Ben, ils ont maintenu la civilisation, ils l'ont conservée, et ils l'ont transmis à ceux qui allaient vraiment s'en servir correctement, c'est-à-dire le monde occidental, quand ? Au début de l'époque moderne, donc à la Renaissance. Donc voilà cette... idée hein, qui est encore extrêmement répandue, hein, qui fait que, outre la distinction académique entre période moderne et période médiévale, qui évidemment ne favorise pas un moderniste, bon, il ne va pas s'intéresser à la science arabe, qui de toute façon finira quand même par disparaître en grande partie. Mais il y a aussi cette idée plus profonde hein, que finalement, la science arabe s'est terminée à la Renaissance. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de montrer que ce n'est pas tout à fait vrai, même si, évidemment, il y a de profondes modifications. En trois temps, comme il se doit. D'abord, des critiques à la médecine arabe, hein, puisque évidemment, il y a eu des critiques à la médecine arabe à la Renaissance, très nombreuses. Ensuite, nous verrons que malgré ces critiques, parallèlement à ces critiques, il y a le maintien d'une tradition de médecine arabe extrêmement importante, et même parfois très originale. Et enfin, l'intérêt toujours existant pour la médecine arabe elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on continue les vieilles traditions un petit peu décaties. Non, on continue à s'intéresser à la médecine arabe parce qu'on pense qu'elle peut apporter quelque chose à la Renaissance. Alors commençons par ces critiques de la médecine arabe. Un exemple, un ouvrage publié à Lyon en 1534, mais qui en fait est écrit par des Italiens, qui s'appelle donc, vous avez la page de titre, « Petit traité ». Produit dans la nouvelle académie de Florence, donc à l'université de Florence, contre Avicenne et les médecins récents qui, négligeant l'art de Galien, préfèrent les barbares. Donc voilà, le titre donne déjà tout le programme. Hein, c'est une série de petits traités, des invectives, polémiques, hein, contre ceux qui préfèrent donc Avicenne, donc ce grand médecin persan, mais qui écrit en arabe pour la médecine du XIe siècle, et les médecins récents, donc arabe et latin en réalité, qui néglige l'art de Galien, Galien étant hein, ce grand médecin du IIe siècle de notre ère, le fondateur hein, de la médecine qui, par la suite, couvrira tout le Moyen-Âge. Et donc, ceux qui préfèrent à ce Galien les barbares, donc terme qu'on a évidemment déjà vu lors de la conférence précédente. Voilà ce que dit Bastien Olandi, donc un médecin un philosophe et humaniste, donc florentin, hein, qui écrit un barbaromastix. Alors rien que le titre veut tout dire, c'est-à-dire on mange les barbares, quoi, on les détruit en les broyant. J'espère que de notre académie de Florence sortiront de véritables volumes sur les erreurs d'Avicenne. Hein, donc il encourage ses collègues à faire vraiment des ouvrages entiers pour montrer à quel point Avicenne s'est trompé, ce médecin arabe traduit en latin. Autre exemple, toujours à propos d'Avicenne, Paracelse, donc, que vous connaissez sans doute pour sa chimie, son alchimie assez originale, en 1527 à Bâle, organise le jour de la Saint-Jean, donc il y a des feux de la Saint-Jean, et il réunit tous ses étudiants et il décide de brandir un ouvrage de médecine, le canon d'Avicenne, un ouvrage qu'on verra tout à l'heure. Ah, donc c'est l'encyclopédie médicale d'Avicenne qui était vraiment le fondement de tout l'enseignement de la médecine en Occident à la fin du Moyen-Âge. Il le brandit et il le jette au feu en disant « débarrassons-nous hein, de cette horreur ». Ce qui n'empêchera pas par ailleurs de l'utiliser quand il aura besoin. Mais voilà, des gestes vraiment, donc 1527, on est à la même époque, hein, des gestes symboliques pour montrer à quel point on rejette cette médecine arabe. Alors pourquoi on la critique, cette médecine arabe? Quatre raisons principales, bon, certaines sont liées entre elles. La première, c'est l'infidélité aux auteurs antiques. Évidemment, les Arabes n'étaient pas fidèles au sens où ils ne se sont pas contentés de répéter. Hein, c'est aussi un peu l'idée qu'il y avait chez Leclerc, c'est que, bon, voilà, ils ont maintenu la civilisation, mais en réalité, non. Ils ont ajouté des choses. Évidemment, on l'a vu pour la mathématique. Ils ne sont pas contentés de répéter servilement ce qui avait été dit. Ils ont corrigé, modifié, ajouté, hein, voire critiqué parfois certaines conceptions antiques. Donc, de fait, ils sont infidèles, mais pas infidèles au sens où c'est une erreur. C'est une volonté de leur part, hein, de ne pas respecter trop servilement les antiques. Mais ça, c'est évidemment pas toujours accepté par certains humanistes. Deuxième point fondamental, la langue barbare. Cette langue barbare, c'est la langue, en fait, non pas arabe, même si Pétrarque et d'autres critiquent la langue arabe. En réalité, c'est la langue latine inspirée des traductions faites en arabe, des textes antiques, grecs ou essentiellement grecs. Donc c'est une langue scolastique qui, de fait, quand on compare un texte de Cicéron et un texte scolastique du XVe siècle ou XIVe, on voit qu'il y a quand même une légère différence dans le style et que, disons, l'élégance et le style n'est pas la première qualité de ces textes, hein, c'est au contraire des textes techniques, hein, qui ne visent pas du tout à être beaux, qui visent à être pratiques, avec un vocabulaire qui a été inventé, hein, comme on l'a dit en mathématiques, en médecine c'est aussi vrai, hein, parce qu'il n'y avait pas le vocabulaire latin pour utiliser cette médecine arabe. Troisième point, moins connu, c'est l'orientation philosophique, on va voir des exemples de critiques, puisque beaucoup des auteurs arabes ont écrit des sommes, en tout cas c'est ce qui a beaucoup été traduit en Occident, des sommes médicales. Et une de leurs préoccupations, c'est le cas d'Avicenne, mais d'autres aussi, hein, comme c'était des philosophes, hein, souvent une caractéristique des philosophes arabes, c'est qu'ils sont presque tous médecins. Et inversement, beaucoup de médecins sont philosophes. Et donc, ils ont essayé de donner une cohérence philosophique à leur discours médical, hein, de rendre tout ça compatible. Or, évidemment, quand on rejette la philosophie scolastique, on en vient à rejeter la médecine qui en est tirée, hein, qui s'appuie dessus. Donc, l'orientation philosophique des auteurs arabes, qui est massive, mais qui n'est pas la seule orientation, mais cette orientation précisément est critiquée par les auteurs. Enfin, plus étonnant, la différence religieuse. Certains auteurs considèrent que parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ces auteurs arabes sont dangereux, y compris en médecine. Alors, il n'y a pas vraiment d'explication précise, mais on en verra un exemple tout à l'heure. Alors, commençons par le retour à l'antique. Je vais aller très vite parce que ce sont des choses très connues. Évidemment, on édite à la Renaissance, comme on l'a vu pour Euclide, les auteurs grecs de médecine dans la langue originale ou en traduction, généralement en traduction nouvelle. On refait les traductions qui avaient été faites au Moyen-Âge, souvent de l'arabe, parfois du grec. On les refait et on les édite à de très nombreuses reprises. Donc là, une édition très connue et très répandue, une édition à Venise en 1565, des œuvres complètes de Galien, donc c'est quelque chose d'énorme, parce que Galien était un graphomane, il a écrit beaucoup. Ce sont des monuments en plusieurs volumes. On redécouvre des textes antiques qui, jusqu'à présent, n'étaient pas connus, hein, qui n'étaient pas connus des médiévaux, y compris des textes en latin. Ici, par exemple, hein, Caelius Aurelien, donc un auteur du 5e siècle de notre ère, qui a écrit en fait un traité des maladies chroniques et aiguës, traité qui en fait est une adaptation d'un texte grec de Soranus, mais qui était complètement inconnu des médiévaux. Et d'ailleurs, on n'a même plus de manuscrits aujourd'hui latins. Hein, ils ont retrouvé un manuscrit au début du XVIe siècle, ils l'ont édité, puis on n'a plus ce manuscrit, donc voilà, on n'a plus que l'édition aujourd'hui. Donc on retrouve des textes qui, du coup, en 5e siècle, on écrit dans un latin, bon, peut-être pas tout à fait classique, mais enfin, en tout cas, beaucoup plus proche de celui de Cicéron. Et donc, à la fois, le style est plus intéressant, et en plus, on redécouvre des choses qui étaient complètement inconnues. Enfin, évidemment, on édite les textes grecs eux-mêmes, hein, 1526, première édition grecque de l'œuvre d'Hippocrate. Hein, œuvre complète d'Hippocrate. Donc, on retourne au texte antique, ou bien dans la version grecque, ou bien dans des traductions refaites, plus fidèles au texte grec. On a exactement le même mouvement qu'on a vu tout à l'heure que pour les mathématiques. Passons maintenant aux critiques philosophiques et religieuses, qui sont peut-être plus intéressantes pour nous et plus originales. Alors, je vais mentionner ici un médecin assez connu, hein, Symphorien Champier, qui était un médecin, mais qui a écrit aussi dans d'autres domaines, médecin lyonnais, hein, donc 1471-1538, donc au tout début de la Renaissance en France. Deux livres qui m'intéressent ici. Le premier sur les grands auteurs en médecine, publié en 1506, donc est une espèce d'anthologie biographique, hein, c'est des biographies à la suite qui commencent à Apollon, fondateur de la médecine, jusqu'à son temps, hein, les grands médecins qui ont existé. Et ensuite, la symphonie de Galien à Hippocrate et de Cels, un auteur aussi antique, à Avicenne. Donc déjà, on voit mentionner ici un auteur arabe. Et alors, on va voir que Symphorien Champier n'est pas toujours cohérent avec lui-même. Voilà ce qu'il dit sur Avicenne, dont je parlerai beaucoup aujourd'hui, dans le premier des deux ouvrages, donc en 1506. Avicenne était un homme d'un génie éminent, certainement plus brillant que tous les autres. Ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Cet homme, très érudit dans toutes les choses, composa un livre dans lequel il voulut réunir toute la médecine grâce à son génie subtil. Donc, il mentionne ce canon, cet ouvrage, cet énorme ouvrage de synthèse médicale, hein, qui effectivement réunit des connaissances très très vastes sur la médecine. Mais voilà ce qu'il dit dans ce même ouvrage, un peu plus loin dans la biographie d'Avicenne, à propos de sa métaphysique. Alors j'ai coupé, bon, vous verrez que c'est un petit peu grammaticalement disons, douteux, mais enfin bon, on comprendrait ce qu'il dit. Il a composé, donc Avicenne, une métaphysique dans laquelle il apparaît qu'il était mahométan. C'est vrai. Et voilà que cette loi mahométane, si on peut le dire, semble contenir, je coupe, comme il le dit. Une citation supposée d'Avicenne, je ne l'ai pas retrouvée, bon, c'est possible, mais bon. « Tu sais ce que sont les jouissances et les plaisirs des corps. Or, notre loi, que nous a donnée Mahomet, montre une disposition au bonheur et au malheur qui se trouve dans les corps. » Les sages théologiens, alors ce n'est pas les sages théologiens, les théologiens qui sont sages, c'est les sages qui étaient théologiens dans le monde arabe, ont surtout voulu rechercher cette félicité corporelle que promet Mahomet. D'où tu vois que Mahomet ne fut pas prophète et n'a pas donné le bonheur intellectuel aux Arabes et aux siens, mais a cherché seulement celui corporel et physique. Et ça, c'est une critique courante hein, de l'islam dans le monde chrétien, hein, qui appuyait d'ailleurs notamment sur la vision du paradis, qui était un paradis très matériel, hein, en tout cas tel qu'on le comprend dans le Coran. L'idée que voilà, l'objectif n'est pas du tout le bonheur dans l'au-delà, c'est vraiment le plaisir physique sur Terre. Or, Avicenne, comme il intervient en médecine, et la question du plaisir, la question de la douleur, sont évidemment des questions fondamentales en médecine, eh bien, méfions-nous hein, de ce qu'il peut dire, y compris en médecine, parce que sa loi mahométane risque de nous amener à l'erreur, à l'hérésie. Citation tirée du deuxième ouvrage que j'ai mentionné. Avicenne et Averroès, donc un autre médecin dont je parlerai aujourd'hui, lui, andalou, hein, très connu lui aussi, hein, sont les deux médecins et philosophes arabes les plus connus, sans doute, donc du XIIe siècle, hein, né en 1126 et mort en 1198. Avicenne et Averroès, cet apostat impie, donc c'est surtout Averroès qu'il n'aime pas, trompent les médecins chrétiens avec leur philosophie folle et barbare. Vous voyez que dans cette phrase, il y a tout est résumé. Hein. Le fait qu'ils soient non chrétiens et le fait que leur philosophie, qui est évidemment liée à leur religion, ces deux choses-là trompent les médecins, évidemment chrétiens. Donc, méfions-nous hein, de ces auteurs arabes qui peuvent conduire à l'erreur philosophiquement, mais surtout théologiquement. Alors, ces visions, donc évidemment tout à fait négatives, peuvent être contrebalancées par d'autres auteurs. Il faut voir que ces critiques que l'on peut trouver, qui sont nombreuses, j'ai donné que quelques exemples, sont pas les seules. Je ne mentionne que Rabelais. Donc, vous savez que Rabelais, évidemment, tout le monde le connaît. Mais ce que tout le monde ne sait pas toujours, c'est qu'il était médecin. Il a été formé comme médecin. Et d'ailleurs, dans ses ouvrages, il y a un ouvrage entier, une thèse assez énorme, sur la médecine dans l'œuvre de Rabelais. Il parle beaucoup de médecine, il a des connaissances tout à fait au point par rapport à son temps. Et dans le Pantagruel, quand il explique la formation que l'on doit suivre, voilà ce qu'il dit. Puis, soigneusement, revisite les livres des médecins grecs, arabes et latins, et par de fréquentes anatomies, écarte-toi une parfaite connaissance de l'autre monde qui est l'homme. Bon, ce qui m'intéresse, c'est les termes grecs, arabes et latins. Tout est mis sur le même plan. Il n'y a pas du tout de distinction. Le problème n'est pas de savoir s'ils sont grecs, arabes ou latins. L'important, c'est le contenu et la connaissance du monde, la connaissance de l'homme à travers l'homme, le monde. Donc, pour un Rabelais, on n'a pas de critique à la médecine arabe en tant que telle. Or, il est tout à fait contemporain de Saint-Florian Champier, enfin un peu plus récent, à Lyon, etc. Donc, voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas du tout un mouvement généralisé. Coluccio Salutati, un humaniste italien, lui aussi très connu, bien antérieur, mais qui était un suiveur de Pétrarque, commentateur des œuvres de Pétrarque. Voilà ce qu'il dit sur Avicenne. Le remarquable compilateur et organisateur Avicenne, un homme extraordinaire qui a apporté une grande lumière à la médecine. Vous voyez qu'un suiveur de Pétrarque dit complètement le contraire, et notamment sur cet Avicenne. Donc là aussi, il ne faut pas faire un lien immédiat entre humanisme, renaissance et rejet des Arabes. Certes, des grandes figures comme Pétrarque et d'autres rejettent la science arabe, mais en fait, beaucoup d'autres la considèrent comme tout à fait valable et utile. À une phrase plus tardive, cette fois, on va en Allemagne, à Leipzig, donc dans les années, au tout début du XVIIe siècle, donc on a vraiment sauté dans le temps. Peter Kirsten, donc était un étudiant, donc plutôt à la fin probablement du XVIe siècle, raconte avoir entendu un de ses professeurs de Leipzig affirmer « Il n'y a de bons praticiens qu'avicéniens ». Donc, pour être un bon praticien en médecine, il faut être avicénien, il faut suivre Avicenne. C'est la meilleure méthode. Donc, encore fin XVIe siècle, là, dans un autre cadre géographique, Avicenne est considéré comme le modèle. Je termine ce petit parcours par quelque chose qui... Alors, je l'ai mis parce que ça me fait plaisir. J'étais il y a quelques temps à Bruxelles. Je visite le musée royal de Belgique, que je vous recommande. Et je tombe sur ce portrait du médecin Joris van Zyl. Donc, un peu endormi par la suite des portraits. Je me dis, tiens, c'est un médecin. Je regarde un peu dans le détail. Portrait assez classique. Puis, il a quand même un texte sous la main, là. Et donc, je regarde de plus près. Je me mets tout près... au risque de me faire réprimander par les gardiens. Je regarde de près, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on arrive à lire quelque chose. In quelque chose, je zoome, enfin, je m'approche. In primis deo gratias agamus sicut suic ordinis celsitudo et beneficii multitudo meretur. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais enfin, vous devinez à peu près au moins le début. In primis deo, et le reste est à peu près bien fait. Donc, c'est quand même fait à l'envers, il s'est appliqué. Et je me dis, mais évidemment, c'est le début du canon d'Avicenne. Ce sont les premiers mots du premier livre du canon d'Avicenne, donc vous avez ici, dans une édition de la fin du 15e siècle, un Liber canonis primus quem princeps aboali avinceni de medicina edidit, translatus, etc., in primis deo gratias agamus. Et donc, je reviens sur notre Joris van Zyl, que je ne connaissais pas avant ça, quand, disons, dans la première moitié du 16e siècle, il se fait représenter comme médecin, quelle est la seule marque de sa qualité de médecin dans ce tableau? Vous regardez ailleurs, il n'y a rien qui indique qu'il est médecin. C'est ce livre. Or, c'est quoi le livre, le fondement de son savoir médical? C'est le canon d'Avicenne. Donc, c'est encore, au début du XVIe siècle, pour ce médecin, un symbole flamand, donc un symbole de la médecine. Du coup, malgré les critiques, ces mentions favorables et ces marques d'utilisation montrent qu'il y a le maintien d'une tradition qui provient du Moyen-Âge, d'études et d'intérêt pour la médecine arabe. Alors, du coup, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais rapidement, pour vous expliquer quelle est cette tradition, et ensuite, on va voir ce qu'elle devient à l'époque moderne. Alors, Avicenne, oui, j'en ai déjà dit pas mal, donc j'aurais peut-être dû le mettre plus tôt, 980-1037, donc j'ai mis une gravure de l'époque moderne, qui le représente, donc avec son turban. Vous noterez qu'il a une petite couronne, ça, c'est quelque chose qui a été étudié par Dag Hasse, puisqu'il avait un titre... Vous savez que dans le monde arabe, vous ne savez peut-être pas, mais au médiéval, il y a une profusion de titres très pompeux, c'est tout à fait classique. Et bon, lui-même a été vizir, hein, donc il a été premier ministre, entre guillemets, de différents pouvoirs en Perse. Et donc, il est porté des titres. Et un a été traduit par Rex. Et donc, les auteurs latins ont dit, bon, bah, il était roi. Alors, bon, certains se sont dit, mais comment pouvait-il en même temps écrire des livres de médecine, être roi ? Bon, il y a eu quelques doutes, mais enfin, il est toujours représenté, si vous le verrez, toujours avec une couronne, parce qu'on était considéré, et un turban, puisque malgré tout, ça reste un arabe. Mais le bas est quand même une tenue tout à fait 16e siècle, enfin, ou plutôt début du 17e. Donc, Avicenne, donc, un persan, une formation très large, qui a donc, voilà, j'ai remis quelques informations de base. Il n'a jamais quitté la Perse, en réalité. Il a beau écrire en arabe, pour l'essentiel, en tout cas pour son œuvre médicale, elle est écrite en arabe. Il a écrit d'autres œuvres en persan. Mais il est tout à fait éloigné géographiquement du monde méditerranéen. Quelles principales œuvres médicales ? J'en ai mis quelques-unes. Hein, le canon de la médecine, bon, vraiment une énorme synthèse sur la médecine. Le poème de la médecine, donc une synthèse beaucoup plus courte, versifiée, qui vise donc à l'apprentissage, hein, c'est pour les étudiants, les médecins débutants, hein, le fait qu'il soit versifié la rend possible, rend possible sa mémorisation, qui d'ailleurs a été commentée par Averroès, hein, on verra Averroès tout à l'heure, et qui a été aussi traduite en latin, mais à la fin du XIIIe siècle, dans une traduction horrible, mais bon, qui avait le mérite d'exister. Et enfin, un traité sur les médicaments cordiaux, donc les médicaments pour le cœur, et plus généralement, un traité sur le cœur. Hein, et bon, beaucoup d'autres traités médicaux courts, mais qui n'ont pas été traduits pour la plupart en latin. Hein, les trois principaux, c'est ceux-là, ils ont tous été traduits en latin. Le principal, c'est le canon de la médecine. Donc, je ne vais pas m'attarder très longuement. Juste un mot sur son organisation, que vous soyez, que vous connaissiez un petit peu ça. 5 parties. D'abord, des généralités. Alors, qu'est-ce que c'est les généralités ? Ben, c'est les aspects philosophiques, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est surtout la physiologie. Hein, comment fonctionne le corps humain ? Donc, l'anatomie, également. Les principes de base de la thérapeutique. Hein, qu'est-ce que la santé ? Qu'est-ce que la maladie ? Quelles sont les grandes techniques de soins ? Donc, des choses générales sur toute la médecine. Hein, c'est vraiment la médecine théorique, si l'on peut dire. Ensuite, deuxième livre, une liste de médicaments simples. Donc, il y a plus de 700 médicaments qui sont listés avec à chaque fois leur vertu, hein, leur utilisation. Troisième livre, une liste des différentes maladies existantes de la tête aux pieds. Donc on commence en 22 parties qu'il appelle FEN, enfin c'est la translittération du terme arabe qui veut dire partie. Donc la tête en premier, ensuite, qu'est-ce que c'est en deux, je ne me souviens plus, c'est les oreilles, je crois. Non, ça ne doit pas être ça, enfin, peu importe. En tout cas, non, c'est les nerfs, pardon, excusez-moi. Ensuite, les yeux, etc. Puis 22, c'est les extrémités, les pieds, etc. Enfin, quatrièmement, les maladies non localisées, parce que toutes les maladies n'ont pas une localisation corporelle précise, hein, notamment les fièvres, hein, qui sont considérées comme une maladie générale du corps. Et enfin, les médicaments composés, c'est-à-dire quand on prend les médicaments simples du livre 2, qu'on les met ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire comme préparation. Donc, voilà, on couvre toute la médecine comme ça. Alors, ce texte a été traduit au XIIe siècle par Gérard de Crémone, hein, dans le même mouvement de traduction dont on a parlé tout à l'heure. Donc, traduction... J'ai comparé pour de nombreux passages la traduction qui est quand même extrêmement bien faite. Hein, on peut toujours la critiquer pour le style latin qui est vrai et assez, assez rebutant. Mais malgré tout, elle est fidèle, précise, comportant très peu d'erreurs. Ça m'arrive très rarement de trouver des passages où Gérard de Crémone s'est trompé ou peut-être qu'il a eu un manuscrit arabe mauvais. Ça peut aussi arriver. Donc une traduction très, très, très bonne qui ensuite a une diffusion à partir du XIIIe siècle très très large à tel point que à partir du début du XIVe siècle, toutes les universités, d'abord en Italie, puis dans toute l'Europe, prennent ce livre-là comme manuel de médecine. On apprend la médecine en lisant, c'est-à-dire en commentant. Les professeurs commentent ce texte, notamment la première partie, le premier livre sur les généralités, qui est vraiment la base de l'enseignement. Et ça, ça dure jusqu'au XVIIe siècle. Il y a vraiment une tradition donc médiévale, mais qui va durer très très loin. Je vous donne un exemple pour la période médiévale, 1405, on va regarder rapidement. Un programme, on a conservé miraculeusement, le programme de l'université de Bologne. Donc, c'est ce qui faisait que dans les cours. Voilà comment c'était organisé. Toute la première année, pendant tous les matins, hein, tous les jours, avec le professeur, on étudiait une partie du livre 1 du canon d'Avicenne. De la même manière, en quatrième année, on reprenait ce passage, mais évidemment de manière un peu plus approfondie, puisqu'on avait un peu plus d'expérience. Si vous regardez dans le détail, bon, il y a évidemment Galien et Hippocrate qui apparaissent partout, mais les autres ouvrages d'Avicenne sont généralement précisés. Hein, deuxième année des forces du cœur, le traité sur les médicaments cordiaux dont j'ai parlé. Quatrième année, une autre partie du canon, livre 4, fen 1, c'est-à-dire partie sur les fièvres. Et l'après-midi, on remangeait du canon d'Avicenne. Donc vous allez regarder, on va pas regarder dans le détail, hein, mais si vous jetez des petits coups d'œil, vous voyez qu'il apparaît encore à de plusieurs reprises, notamment pour le livre 1. Vous aurez peut-être remarqué aussi que le Colligète d'Averroès, ouvrage dont on parlera tout à l'heure, apparaît également dans le programme. En gros, vous avez, c'est quoi le programme? C'est Galien, Hippocrate, Avicenne, Averroès. En proportion, évidemment, inégale. Comme je vous ai dit que le canon d'Avicenne continue à être utilisé dans les cours jusqu'au XVIIe siècle, dans les cours universitaires, du coup, on a de nombreuses éditions du canon. Je n'ai même pas mentionné ici les éditions incunables, c'est-à-dire avant 1500, mais après 1500, voilà les éditions, les années d'édition que l'on a du canon d'Avicenne. 39 éditions, plus une édition en arabe, on va le voir, qui vont donc de 1505 jusqu'en 1674 pour la dernière. Bon, vous voyez quand même que ça se ralentit un petit peu hein, dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au XVIIe siècle. Hein, l'essentiel, c'est quand même jusque dans les années 1560, 70, et après, bon, ça devient plus ponctuel. C'est sans doute parce que ça intéressait quand même un tout petit peu moins. Mais il ne faut pas du tout négliger le fait que tout ça est cumulatif. C'est-à-dire que les livres, une fois qu'ils sont publiés, ils s'accumulent. C'est-à-dire que l'édition de 1505, en 1550 ou 1560, on peut éventuellement toujours la trouver. Donc il n'y a pas besoin non plus hein, de réimprimer systématiquement des ouvrages qui sont déjà extrêmement diffusés. Hein, mais donc 39 éditions, c'est quand même un chiffre remarquable, hein, qui montre la continuité d'utilisation de ce texte. J'en montre une seule, assez tardive, celle de 1595, parce qu'elle est tout à fait remarquable par sa beauté, donc qui contient aussi le cantique, hein, c'est-à-dire le poème de la médecine. Donc vous voyez, Avicenne Arabum Medicorum Principis, donc le canon de la médecine d'Avicenne, prince des médecins arabes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des images et qui sont tout à fait sympathiques, puisqu'on voit. Alors, c'est des techniques pour soigner les. Ici, c'est les luxations, les mal de dos, etc. Hein, donc, vous voyez qu'ils ont des turbans hein, pour représenter le fait que, malgré tout, ce sont des Arabes. Ici, donc, une réduction. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est des réductions, je crois, de fractures. Bon, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a tout. Avicenne, avec sa barbe et son turban, fait le nécessaire pour soigner les patients. Parallèlement, il n'y a pas que des éditions du canon d'Avicenne. On édite aussi des commentaires médiévaux à ce texte. Hein. Évidemment, comme c'était un texte qui est étudié dans l'université, énormément hein, de commentaires ont été produits par les auteurs du Moyen-Âge. Commentaires qui sont parfois des notes de cours. Hein, c'est les cours vraiment qui sont transcrits et transmis. Parfois, c'est vraiment des œuvres où ils s'arrêtent et ils décident d'écrire un ouvrage de médecine sous la forme d'un commentaire à cette autorité majeure. J'ai donné ici, alors je pourrais donner des. Il y a des centaines, peut-être pas, mais au moins une centaine de commentaires au canon d'Avicenne pour l'époque médiévale. Je n'en donne qu'un, choisi un peu comme ça, j'aurais pu en choisir un autre, peu importe, Ugo Baenzi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est lui aussi déjà à l'époque de la Renaissance. Hein, en Italie, début du 15e siècle, c'est déjà la Renaissance. Ugo Baenzi, donc 1376-1439, qui a écrit donc son commentaire au canon d'Avicenne dans la première moitié du premier quart du 15e siècle. Il y a plusieurs éditions de 1478 à 1524. J'en ai mis une seule, là, une image, peu importe. Voilà ce que j'ai mentionné, ce que j'ai relevé. 5 éditions de son commentaire au livre 1, uniquement la première partie, donc sur les généralités, donc la physiologie, hein, de manière générale. 11 éditions de son commentaire au livre 1, Fen 4, c'est la thérapeutique générale, c'est vraiment toutes les techniques de soins, ventouses, saignées, etc. Donc tout ce qu'on peut utiliser de manière générale pour soigner, non pas pour une maladie particulière, mais vraiment en général. Donc 11 éditions de son commentaire, ce qui n'est quand même pas du tout négligeable, hein, dans une période courte de 50 ans. Hein. Et 5 éditions de son commentaire sur le livre 4, Fen 1, qui correspond aux fièvres, hein, qui est évidemment un point important de la médecine. Donc si on ajoute tout ça, on a 21 éditions de ces différents commentaires au canon d'Avicenne. Donc là aussi, hein, et c'est un exemple, c'est pas du tout l'auteur le plus imprimé à cette époque. Il y en a d'autres, autant ou plus, hein, dans les commentaires. Donc, les auteurs médiévaux continuent à être lus, continuent à être édités. Hein, les éditeurs, s'ils les publient, ils les publient où? Dans les villes universitaires, hein, à Padoue, à Florence, à Bologne, à Pérouse. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché, hein, des étudiants et des professeurs qui utilisent dans leurs cours, dans leurs études, ces ouvrages. Un autre commentateur qui, évidemment, m'est cher, Gentile da Foligno, donc c'est une belle image ici dans une édition de 1520. Hein, vous avez Gentile da Foligno d'un côté, et vous avez à nouveau le début du texte, hein, vous voyez que c'est très bien connu, In primis Deo gratias, donc c'est toujours le début du canon, sur son... Et de l'autre côté, Avicenne, avec écrit en coup Princeps Avicenni, donc qui est représenté comme un roi, hein, comme je vous l'avais dit. Hein, vous voyez, il a une couronne, il a un sceptre, il est sur un trône, mais bon, il a les pieds quand même sur des livres, malgré tout, ça l'intéresse un peu. Donc voilà l'image de ce commentateur, donc Gentile da Foligno, mort en 1348, donc lui, pour le coup, c'est vraiment un médieu. Autant Ugo Benzi, on pouvait dire, bon, allez, c'est un peu un homme de la Renaissance. Là, non. C'est tout à fait un scolastique dans la plus pure tradition médiévale. Eh bien, on édite régulièrement, lui aussi, ses commentaires à la Renaissance, hein, dans les mêmes années, hein, les 50 années qui vont du 1475 à 1525 environ. Ce commentateur, je vous le mentionne, pour ce qu'il dit du canon d'Avicenne au début. Hein, au début de son commentaire, il en fait une présentation. Personne, avant Avicenne, n'a composé un livre aussi parfait sur les principes de la médecine que le premier livre du canon. Ce qui rend cette œuvre aussi remarquable, c'est primo sa juste quantité, qui fait que quand l'étudiant l'écoute dans des cours, il n'en est pas effrayé. Bon, cela dit, c'est quand même très long. Hein, mais bon. Secundo, c'est sa louable abondance qui pousse à son étude. C'est quand même, comme il y a de la matière, il y a de quoi travailler. Tertio, c'est son ordre facile à mémoriser qui s'adapte à la disposition de la science. Ce qui est très intéressant, c'est on ne loue pas nécessairement l'originalité d'Avicenne, même si par ailleurs il le fera. Ce qui intéresse, c'est la qualité du style, mais pas le style de la langue arabe qu'il ne connaît pas, ni même de la traduction latine. C'est l'organisation de la matière. Et ça, c'est essentiel parce que un des problèmes de la médecine galénique, qui est vraiment le fondement de la médecine, disons, occidentale, arabe, en gros, de la fin de l'Antiquité jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, un des problèmes, c'est que si un jour vous ouvrez un livre de Galien, ce que je vous encourage à faire, c'est très agréable à lire parce qu'il y a des invectives, il parle à des gens, il s'énerve, il est de mauvaise foi, enfin, il est assez drôle, pour tout dire, mais il commence à parler d'un truc, et il fait une digression hyper longue sur un auteur qu'il a rencontré, qui lui a dit un truc qui ne lui a pas plu, et 20 pages après, il revient sur ce qu'il avait dit, mais du coup, il ne prend pas tout à fait le... On s'y perd. Et il a écrit, enfin, dans l'édition de Kuhn, je ne sais plus combien, il y a 20 volumes des œuvres complètes, donc l'édition de Kuhn du 19e siècle, la grande édition de Galien. Donc c'est un fouillis très 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 compliqué, où Galien d'ailleurs n'est pas toujours cohérent avec lui-même. Et donc, si on veut étudier la médecine galénique, étudier Galien directement, c'est un travail énorme. Donc c'est très bien pour un philologue ou pour un médecin qui est un professeur, mais pour un médecin qui apprend la pratique, lui ce qu'il veut c'est, bon alors c'est quoi les principes. Et donc pour ça, Avicenne c'est le meilleur. Hein. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est bien pour enseigner la médecine. Hein, c'est le primo, c'est pour l'étudiant. Hein, c'est ça qui est essentiel. Donc c'est pas le style littéraire, c'est l'organisation, le style global, la structure de l'ouvrage. Et j'ai mentionné ce texte pour le comparer avec un autre commentateur lui aussi italien, Giovanni Battista da Monte, professeur à Ferrare et Padoue, donc vous voyez, dans la première moitié du XVIe siècle. Cet auteur a lui aussi commenté le premier livre du canon d'Avicenne, et voilà, j'ai mis une citation, j'ai mis une image, et ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est vraiment un homme tout à fait dans la tradition médiévale, puisqu'il a commenté Avicenne, mais aussi il a commenté Galien, hein, ici c'est son Ars Parva, le Techni de Galien, donc un ouvrage aussi général sur la médecine, et il a commenté Razi, un autre auteur arabe du Xe siècle. Donc, il a commenté tous ses ouvrages, et en utilisant la même méthode, parce que pour lui, il y a une continuité intellectuelle entre ces différents ouvrages. Et voilà ce qu'il dit vers 1540, quand il écrit son commentaire au canon d'Avicenne, donc exactement deux siècles après Gentile da Foligno. Lorsque le médecin aura appris tout l'art de soigner dans les premières, deuxième, troisième et quatrième fens du canon, donc du premier livre du canon, donc il aura en gros appris l'art de soigner dans le premier livre du canon, il ne lui manquera rien d'autre que de diriger son étude vers la présentation des choses particulières qu'a faites notre divin Avicenne. Car après avoir enseigné l'art dans les premières, deuxième, troisième et quatrième fens, il entame le troisième livre, je vous rappelle les maladies de la tête aux pieds, où il enseigne comment appliquer aux particuliers cette méthode universelle. Donc, il dit non seulement il est génial pour le premier livre, pour la présentation globale de l'art, mais il est aussi extraordinaire, divin, pour la présentation pratique de chaque maladie et comment on fait concrètement pour appliquer les règles générales dans les cas particuliers. Si vous mettez en regard ces deux textes, certes il y a des différences, on voit quand même une immense similitude. notamment sur le rôle didactique, pédagogique de ce texte, hein, son intérêt pour l'apprentissage de la médecine, et aussi l'organisation, hein, la complétude de cet ouvrage qui permet d'atteindre la perfection en médecine. Alors, le contenu lui-même du commentaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, est assez différent. Il a un style très très différent, très humaniste d'ailleurs, même presque maniériste dans son latin. Mais le fond est exactement le même. Il y a une grande similitude. Je mentionne encore un autre médecin, encore plus tardif, Santorio Santorio, qui est un médecin absolument passionnant. Passionnant à plusieurs titres. Donc il était médecin lui aussi à Venise-Padoue, qui était vraiment la grande université à Padoue de médecine dans la deuxième moitié du XVIe siècle de manière générale, et même au début du XVIIe en Italie, voire en Europe. Avec beaucoup d'Anglais venaient étudier à Padoue à l'époque, dont William Harvey, découvreur de la circulation sanguine. Santorio, pourquoi il est très intéressant? Parce qu'il est vraiment révélateur de cette double tradition, de cette double tendance. D'abord, c'est considéré comme un très grand innovateur en médecine. C'était un ami de Galilée, un soutien d'ailleurs de Galilée, et lui-même voulait appliquer des méthodes scientifiques similaires à celles de Galilée à la médecine. Il a notamment fondé ce qu'il a appelé la médecine statique, qui est une tentative de mathématiser la médecine, en tout cas de mesurer les processus physiologiques qui se produisent au sein du corps. Il a vraiment essayé de rendre plus certain la médecine à travers des expériences chiffrées. Donc il a inventé une espèce d'ancêtre du thermomètre, qu'on appelait le thermoscope, qui n'est pas tout à fait fiable, mais enfin bon, peu importe, c'est l'idée qui est importante, ce n'est pas le résultat qui ne sera vraiment perfectionné qu'au cours du XVIIe siècle, mais il a eu l'idée de mesurer, on disait toujours évidemment, il y a une chaleur lors de la fièvre, lui il a dit, on va la mesurer, on va essayer de voir si cette chaleur augmente. Il a fait d'autres propositions, il a essayé de mesurer combien on transpirait, combien on... Donc il se pesait pour voir, il se faisait suer, et puis il regardait combien il perdait en température, en eau. Et il s'est rendu compte, il a dit, mais c'est énorme ce qu'on perd en transpiration par rapport à ce qu'on pensait, c'est fondamental, etc., etc. Donc un grand innovateur, qui d'ailleurs lui-même le dit. Il dit, d'abord je mets l'expérience, ensuite le raisonnement, et après seulement Galien, Hippocrate et tous les grands médecins. Donc vraiment une volonté d'expérimentation très forte. Donc ça, c'est vraiment une originalité. Mais par ailleurs, dans son enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il commente le canon d'Avicenne, et c'est l'un des derniers grands commentateurs du canon d'Avicenne qui a écrit. Donc voilà son commentaire au canon d'Avicenne, 1625. Donc là, on est... Bon, Descartes, ok, mais enfin là, on est vraiment à la limite de la Renaissance, mais c'est pour montrer la tradition. Donc Santorio, Santorio, in patavino gymnasio, donc dans l'université de Padoue, in primam fen primi libri canonis Avicenne, commentaria, donc commentaire sur le premier, première fin du premier livre du canon d'Avicenne. Alors, ce qui est intéressant... Bon, j'avais regardé une fois, j'avais vraiment comparé sur, d'ailleurs, trois siècles, du 14e jusqu'au 16e, 17e siècle, sept ou huit commentaires sur le même passage pour essayer de voir ce qui évoluait. Bon, je ne vais pas le faire là, parce qu'on y passerait la journée. Quelle heure est-il? Non, ça va encore. Mais, bon, pour vous donner une idée, index questionum, donc index des questions qu'il pose. Comment ça fonctionne? Il fait des questions, il pose des questions au texte. Alors... Bon, je ne les ai pas traduites, mais prenez par exemple la question 7. Ad medicina sit scientia, est-ce que la médecine est une science? Bon, c'est le début, donc c'est vraiment très général. La deuxième, ad medicina divisio in theoricam et practicam sit propria et ex natura rei, donc est-ce que la division entre théorie et pratique est appropriée et vient de la nature de la médecine elle-même? La suivante, ad detur neutra dispositio, est-ce qu'il y a une disposition neutre, c'est-à-dire qui n'est ni la maladie, ni la santé, comme le dit Galien. Galien dit, il y a la maladie, il y a la santé, puis il y a aussi un état qui n'est ni l'un ni l'autre. Et ça, ça a toujours un peu posé des problèmes. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cet état intermédiaire? Bon, je ne vais pas m'arrêter là. Et je montre le commentaire dans la même édition que j'ai montré tout à l'heure, de Gentile da Foligno, Tabula Dubiorum, donc ce n'est pas dit exactement de la même manière, mais c'est table des doutes, donc des questions. Alors, il y en a un peu plus, mais si on regarde, beaucoup de questions sont complètement les mêmes. Vous regardez la question donc, dans la Fen Prima Doctrina Prima Capitulum Primum, Utrum, la 2, c'est celle que vous avez à côté du F, Utrum medicina sit scientia vel ars, est-ce que la médecine est une science ou un art? Ensuite, vous avez un peu plus loin la question 5, Utrum scientia medicinae dividatur, in scientia et operationes, est-ce que la médecine se divise en science et opération, c'est-à-dire science et pratique? Et un peu plus loin, la question 9, Utrum litigium in neutrum conferat medico, est-ce que ce débat sur le neutre est utile au médecin? Alors vous voyez qu'on retrouve Et puis la suivante, utrum medicina deviatur in theoricam et practicam. Donc parfois il pose deux fois la même question. Donc on retrouve, alors là je l'ai fait sur la partie théorique, mais on retrouvera partout, hein, des questions très très similaires. Alors évidemment le contenu n'est pas le même. Hein. Il y a des évolutions, ils ne sont pas d'accord. Mais Santorio Santorio cite Ugo Benzi, cite Gentile da Foligno. Il les connaît, parfois il les critique, même souvent, mais il reste dans cette tradition-là. Hein, de commentaire dans le style et dans le contenu. Mais pourtant, dans son commentaire, il ajoute des choses qui sont très originales. Hein, voilà cette espèce de thermomètre inventé donc, que vous avez ici. Alors voilà un système de... Il se pesait en mangeant. Il a fait ça toute sa vie pour mesurer combien il mangeait, etc., pour voir si s'il mangeait trop, ça le rendait malade, etc. Donc, bon, alors, c'est ce système qui est décrit. Hein, donc là, c'est son commentaire. Hein, vous regardez au début, In primam fen, centric materia. C'est les commentaires au canon d'Avicenne. Et au sein de ce commentaire, il introduit cette médecine statique qu'il a inventée. Donc vous voyez que ce texte ancien, arabe, est le support d'une médecine tout à fait nouvelle. Et donc il n'y a pas de contradiction dans l'esprit de Santorio, c'est au contraire tout à fait cohérent. Troisième partie, je ne vais pas déborder, bon, il me reste un petit quart d'heure, on a un petit peu de retard quand même. J'avais annoncé, donc après ce maintien d'une tradition, le fait que ce n'est pas juste le maintien d'une tradition, c'est qu'on continue à être intéressé par ce qu'ont dit les Arabes, non pas seulement pour les critiquer ou parce que, évidemment, dans une université, le programme des cours ne change pas souvent. Et donc, si on vous dit il faut enseigner aux étudiants le canon d'Avicenne, même si vous trouvez que c'est nul, bah, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. Donc, peut-être qu'on peut aussi dire, voilà, Santorio a choisi ce cadre-là parce que c'était le cadre institutionnel et il n'avait pas le choix. Pourtant, on voit qu'il y a quand même des intérêts pour la médecine arabe, y compris à l'époque de la Renaissance, y compris chez les humanistes. Alors, trois intérêts principaux. Le premier, je vais aller très vite, l'application des principes humanistes aux auteurs de médecine arabe. Donc on va traiter la médecine arabe comme on a traité la médecine de Galien. Deuxième point fondamental, traduction et retraduction de textes arabes. Hein, et ça, c'est peut-être une originalité de la médecine, il y a beaucoup de retraductions. Et enfin, un intérêt encore parfois perceptible pour des productions arabes récentes, enfin récentes à l'échelle du temps long, on va dire. Alors, intérêt humaniste, premier, je ne mentionne que ça. La première édition du canon d'Avicenne dans le monde entier a été faite à Rome. Hein, bon, de toute façon, l'imprimerie n'a été introduite dans le monde arabe qu'au XVIIIe siècle, mais les premiers, hein, il y a une imprimerie arabe qui s'est fondée à Rome, essentiellement pour produire des textes religieux, hein, mais aussi des textes scientifiques. Je crois qu'il y a les éléments d'Euclide en arabe qui ont été publiés à Rome par cette même presse. Et le seul ouvrage de médecine qui a été publié, c'est le canon d'Avicenne. Alors là aussi, cette édition est disponible en ligne, donc c'est souvent celle que j'utilise quand je veux vérifier le texte du... Bon, il y a pas mal d'erreurs. Bon, peut-être que le manuscrit, c'est pas... Mais elle est quand même bien faite. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs dans le texte. Hein, c'est une édition, c'est la première. Ils ont dû utiliser un seul manuscrit. Mais malgré tout, hein, elle est relativement fiable. Donc ça a été fait sérieusement. C'était pour être utilisé. C'était pas juste pour l'affichage. De toute façon, vu la taille, le prix, c'est quelque chose qui a coûté beaucoup d'argent. Alors ici, quel est l'intérêt? Il est double, mais c'est difficile de savoir ce qui dominait. Un intérêt pour la médecine arabe elle-même, c'est-à-dire qu'on veut vérifier le texte. Il y a des arabisants désormais au XVIe siècle, hein, il y a des chairs de langue arabe. Et donc, bah, il peut être utile de vérifier le texte arabe pour des passages qu'on ne comprend pas bien, ou qui sont mal traduits, où il y a des erreurs. Et aussi, le début de l'orientalisme, qui va vraiment prendre son essor au XVIIe siècle, un intérêt... disons, bah, orientaliste, c'est-à-dire à la fois historique, géographique, culturel, assez général pour la culture arabe, hein, et dont le canon d'Avicenne est un des monuments. Donc il y a les deux, et voilà, c'est probablement l'objectif de l'éditeur était de viser les deux publics, hein, d'une certaine manière. Donc édition de textes arabes, donc il y en a peu quand même, mais quelques-unes ont été produites en Occident. Alors maintenant, passons aux traductions et retraductions, beaucoup plus importants. Premier point, premier exemple, très connu là aussi, enfin très connu, bien connu, tentative de révision de la traduction du canon d'Avicenne. Alors je dis que la traduction de Gérard de Crémone était très bien, malgré tout elle n'est pas parfaite, aucune traduction ne peut l'être, et notamment parce que Gérard de Crémone, quand il n'avait pas de mots latins pour décrire des choses, faisait des translittérations, c'est-à-dire bah, il prenait le mot arabe et puis hop, il le mettait en alphabet latin et puis débrouillez-vous. Alors, il y a des notes, il y a des synonymères à la fin, des glossaires qui aident. Enfin, des fois, on est un peu quand même sur sa fin. Il faut voir aussi qu'à son époque, quand il écrit au XIIe siècle, le vocabulaire technique médical n'existait pas de manière aussi complète qu'il existe au XVIe siècle. Hein, et donc, il a fait comme il a pu. Du coup, ça, plus des erreurs de traduction, des passages difficilement compréhensible. Comme c'est une traduction mot à mot, ça donne un latin quand même enfin, un peu complexe. Il y a des tentatives de retraduction, de révision de la traduction, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, par deux médecins, qui sont tous les deux médecins du consulat vénitien de Damas, qui se succèdent d'ailleurs l'un à l'autre, Ramusio étant assassiné en 1486, donc André Alpago prend sa succession. Ramusio commence à réviser la traduction. Alors, il apprenait l'arabe en même temps, il était assez jeune quand il l'a fait, donc ça n'a pas été... C'est plutôt un travail préparatoire. En gros, il avait pris un texte et il mettait dans les marges interlinéaires, des traductions, des équivalents, pour essayer de vérifier des mots. Donc, il a commencé à faire comme ça. Il est mort brutalement, donc il n'a pas terminé du tout. Alors, on a juste le manuscrit qu'il a laissé. André Alpago, qui a été donc, nommé en 1487 en remplacement, lui est resté longtemps à Damas, a appris l'arabe et a refait l'intégralité de la traduction. Alors, il s'est appuyé sur celle de Gérard de Cremer, il n'a pas refait une traduction, mais il l'a révisé en comparant avec un texte arabe. Et voilà cette édition, enfin le texte édité, qui après va être très diffusé, il a été choisi à l'université de Padoue comme texte de base. Canon médecine cordiale et poèmes de la médecine d'Avicenne, puisqu'il a traduit aussi ses deux autres ouvrages. Autrefois traduit, ça c'est le titre, d'arabe en latin par Gérard de Cremer, puis par André Alpago de Belluno, philosophe et médecin remarquable, après avoir fait d'innombrables corrections marginales dans les marges d'antiques exemplaires arabes, très richement fourni d'un index des mots arabes traduits par lui. Donc, une révision du texte, exactement sur le modèle des révisions humanistes, on vérifie que le texte est mieux traduit qu'il ne l'était au Moyen-Âge. Voilà ce qu'il dit dans sa préface, assez rapidement, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. « Moi, André Alpago de Belluno, médecin, après avoir réuni mes corrections d'après l'original arabe sur les livres médicaux qu'a écrit Avicenne, c'est-à-dire les 5 livres du canon, le 6e sur les médecines cordiales et le poème, remarquant qu'à cause de l'imprécision des noms des médicaments simples, évidemment, c'est compliqué. Vous avez des mots qui désignent des plantes qui n'existent qu'en Perse. Donc, quand Gérard de Cremer a traduit, il y a un peu des doutes. Et des noms arabes en général. D'excellents philosophes et des médecins avaient beaucoup souffert à cause de cette imprécision et avaient fait dans leurs commentaires des explications contradictoires et fausses. J'ai décidé, pour l'honneur de Dieu et pour l'utilité commune, de traduire tous ces mots arabes par ordre alphabétique. Donc, il a fait aussi un énorme glossaire des mots du canon qui sont difficiles à comprendre. Je vais donner un autre exemple, et je m'arrêterai là-dessus, j'en aurai fini à peu près dans les temps. L'exemple de cet autre médecin que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était mentionné dans le programme de l'université de Bologne en 1405, Averroès. Alors là, j'ai mis une image d'Averroès, mais pas du tout... là, c'est plutôt une image médiévale, enfin, du 15e siècle. Vous voyez, c'est des images que vous avez souvent, des représentations de Thomas d'Aquin en chair. En bas, vous avez un homme... qui est toujours désespéré avec un livre à la main, c'est Averroès, puisque Thomas d'Aquin est crédité d'avoir réfuté les théories d'Averroès qui sont dangereuses pour la religion. Et donc, vous avez d'innombrables, il y en a des dizaines de représentations d'Averroès comme ça en dessous, alors souvent couché, parfois assis, pensif, etc., mais toujours dépressif, qui a été vraiment écrasé par la science de Thomas d'Aquin. Donc, bon, j'ai mis celle-là, qui est italienne du 15e siècle. J'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Donc, cet Averroès... qui était surtout un philosophe, connu vraiment comme grand philosophe, qui a eu un énorme succès lui aussi en Occident, un commentateur d'Aristote, principalement, et bien était aussi lui un médecin. Et il a écrit des ouvrages de médecine, le plus important étant ce qu'on appelle en Occident le collegiate. En fait, c'est le Kitab al-Kulliyat fi at-Tibb, c'est-à-dire le livre des généralités, donc Kulliyat a été translittéré en collegiate, livre des généralités sur la médecine. Donc vous avez ici une représentation d'une édition donc de 1530. Donc, un ouvrage médical traduit en 1285 en latin par un juif de Padoue, mais qui l'a traduit de l'arabe, qui s'appelait Bonacosa. Traduction là aussi très fidèle, très bonne pour ce que j'ai regardé, assez moche, il faut le dire, puisque c'est vraiment une traduction mot à mot, et qui, malgré tout, comme toute traduction, je l'ai déjà dit, n'est pas exempte de quelques erreurs. Du coup, sur certains passages difficiles, notamment les derniers livres du collégiate qui traitent de la pharmacologie et de la thérapeutique, il y avait des doutes. Et du coup, on a fait des retraductions. Alors, la partie sur la pharmacologie a été retraduite par un juif, Jacob Mantino, qui a retraduit beaucoup de textes d'Averroès et d'autres, à partir de l'hébreu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif n'était pas de revenir au texte arabe ici. L'objectif est d'avoir un texte plus compréhensible et meilleur. Et donc, on retraduit, et peu importe qu'on traduise de l'hébreu ou de l'arabe, l'important, c'est d'avoir une autre version qui nous paraît plus fiable. Donc ici, la version hébraïque était considérée comme plus fiable, et donc on fait appel à ce traducteur qui a traduit pour de nombreux éditeurs des textes souvent arabes, mais qu'il a traduit de l'hébreu. Donc, traduction de la partie pharmacologique. Mais il y a une autre traduction que personne n'a jamais remarquée, parce que tout le monde croit que c'est une œuvre spécifique, une autre œuvre d'Averroès. Et puis un jour, je me suis dit, mais quand même, je vais aller voir ce truc. Ça s'appelle les Collectanea des Re Medica Averroi Philosophi. Donc les, comment dire, Collectanea, c'est les regroupements, enfin, je cherche le mot, enfin bon, peu importe, sur la médecine, par Averroès le philosophe. Édité à Lyon en 1537. Et j'ai regardé déjà ce que c'était et ce qui était dit dans le texte. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une retraduction de 3 des 7 livres du Collégiète. Mais ça ne se présente pas comme ça. Ça se présente comme un texte original d'Averroès. En réalité, quand on regarde dans le détail, c'est une retraduction de ce Collégiète. Donc faite en France, dans les années 1530. Pourquoi ça n'avance pas? Voilà. Et alors, qui l'a faite? C'est un certain Jean de la Bruyère-Champier, donc Johannes Bruinierus Campierus, qui en fait est le neveu de Saint-Forien Champier. Vous vous souvenez, ce médecin de Lyon dont on a parlé au début? C'est son neveu. Donc Saint-Forien Champier n'aimait pas les Arabes. Eh bien, Jean de la Bruyère-Champier, donc un médecin complètement inconnu, milieu du XVIe siècle, enfin complètement inconnu, en tout cas, il n'y a pas d'études sur lui que je connaisse, il fait une très, 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 très longue préface où il explique absolument tout ce qu'il veut faire dans son... dans cette traduction. Et j'avoue que cette préface est très drôle. Parfois, elle s'embrouille un peu dans un latin très, très maniéré et donc parfois erroné, parce qu'il va un peu trop loin dans son maniérisme. Mais je vais vous en donner des extraits substantiels, mais vous allez voir, ça fait à peu près 15 fois ce que je vais vous mettre là. Et voilà comment il commence. « Ils ne manqueront pas, je le sais, les hommes très éminents auprès desquels notre traduction des Collectanea sur la matière médicale d'Averroès suscitera la calomnie plutôt que la gratitude. Car la plupart des jeunes médecins ont conçu une haine si intolérable contre les doctrines des Arabes et des morts qu'ils ne se permettent ni de les nommer, ni de les citer. Moi, alors bon, je coupe un passage où il vient de dire Galien, Hippocrate ont privilégié l'expérience, etc. Moi, qui suis de leur secte, donc d'Hippocrate et de Galien, pas des Arabes, je m'attache autant aux commentaires en médecine des Arabes et des morts, qui ne doivent nullement être négligés, qu'aux produits de nos anciens. Car ceux-ci, bien que valant moins par la force de leur éloquence, oui, c'est vrai quand même, les textes arabes sont un peu moches à lire, enfin, traduits de l'arabe, pourtant, du fait de la subtilité de leur génie, ne doivent en aucun cas être méprisés dans tous les genres de sciences. Donc, certes, ils sont mal écrits, mais quand même, ils sont très intéressants et très utiles. Car pour moi, vraiment, l'amour de la vérité a plus d'importance que la crainte de la calomnie, j'aime beaucoup cette phrase, que de toute façon, les plus sages et les plus doctes ne peuvent jamais tout à fait éviter. Certes, aucun homme à l'esprit saint ne niera qu'il faut chercher chez Hippocrate, Galien et les autres médecins grecs le meilleur exemple de médecine et ne dédaigneront pas la médecine venue de Grèce, très élégante et tout à fait incorruptible. Et pourtant, je ne me limiterai pas à cela seul et je ne considère pas leurs paroles comme étant si saintes que depuis eux, je ne puisse apprendre des remèdes qui soient apparus meilleurs et plus nombreux ou que je ne puisse admettre ce qu'ont pu proposer de mieux les auteurs plus récents, même barbares et incultes. Pourquoi donc ai-je entrepris de traduire en latin les Collectanea des Re Medica d'Averroès? La raison en est le temps libre que j'ai eu après avoir été libéré des tumultes des cours de Gaulle. Donc, j'ai pas pu rétablir sa biographie, mais il a dû se passer un truc à la cour du roi de France où il a dû fuir discrètement, parce qu'il a été médecin de François Ier et d'Henri II. Donc, il a été médecin des rois, donc probablement il a proposé un médicament qui n'a pas très bien marché. Bref, il s'est réfugié à Lyon dans sa famille, puisqu'il est originaire de Lyon. Quand je profitais de quelques mois à Lyon auprès du mécène de notre temps, le très célèbre et très prudent cardinal François, c'est moi qui mets François, le cardinal de Tournon, vice-régent du roi très chrétien. Considérant en effet que les œuvres de Galien, notre prince, donc il a du temps libre, il ne sait pas quoi faire, ont presque toutes été données en latin. Oui, effectivement, tout a été traduit. De même que celles des auteurs grecs postérieurs, par le soin d'hommes savants, il m'est venu à l'esprit qu'il serait possible d'être profitable à la médecine en m'occupant de la matière que je présente ici, avec le plus de soins possible, et qui n'avait été ou bien pas envisagée par les autres, ou bien corrompu de manière très dégradée. Donc là, je pense quand même que c'est une allusion à la traduction qui existe déjà du Collégiète d'Averroès. Je crois que je m'arrêterai là après de ces citations, mais j'ai vraiment coupé parce que c'est très long. Comme donc ceux qui désiraient apprendre la médecine répugnaient à la lecture d'un langage aussi barbare que repoussant que celui de ces Collectanea, donc la traduction médiévale qui est vraiment moche, qui les empêchait tout à fait de comprendre le génie et la science d'Averroès. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de faire quelque chose, si j'en avais les forces. Ceux dont nous n'avons pas peur de nous glorifier, étant les premiers à avoir repris ces traductions barbares pour qu'elles soient, nous l'espérons, jugées plus aptes pour l'expression, plus habituelles et plus utiles pour la thérapeutique. Je crois que je me suis arrêté là. Oui. Donc ici, on a un morceau de bravoure très très intéressant. C'est assez rare quand même qu'on ait des aussi longs prologue à des traductions. Alors, je précise qu'il a traduit de l'hébreu, parce qu'il ne connaissait pas l'arabe. Il raconte dans sa, qu'il a appris l'hébreu dans sa jeunesse, etc. Ça, je passe sur ça. Et on voit vraiment à peu près tout résumé là-dedans, hein, ce qu'il veut faire. Il veut être utile. Donc, ce qui l'intéresse, c'est le contenu de cette médecine, très subtile, très intéressante, nécessaire pour les médecins de son temps. Donc, le contenu. Qu'est-ce qui bloque pour y avoir accès? C'est cette langue barbare, c'est-à-dire la langue des traductions. On voit bien qu'il se moque complètement du fait que ce soit une langue arabe au départ. L'important, c'est que cette traduction qui a été faite au Moyen-Âge, bah, pour un lecteur du XVIe siècle, elle est vraiment insupportable parce qu'elle n'est vraiment pas belle. Et donc, il refait cette traduction simplement pour rendre accessible la médecine. Et donc, on voit bien qu'elle est toujours utile, elle est toujours nécessaire, hein, en tout cas considérée comme telle, par ce Jean de la Bruyère Champier. Je termine sur ce que je voulais dire, mais je voulais l'évoquer très, très, très rapidement, hein, sur cette affaire très, très connue. Donc, à nouveau, des ouvrages qui sont sortis là-dessus. Ça continue à agiter les chercheurs. La première grande découverte médicale, une des premières grandes découvertes médicales de la Renaissance, c'est la découverte de la circulation sanguine et notamment, précisément, de la petite circulation pulmonaire. C'est complètement redondant ce que je dis, la petite circulation ou la circulation pulmonaire. Donc, c'est-à-dire que le sang circule à travers les poumons. Alors que les médecins antiques et médiévaux n'envisageaient pas cette circulation du sang. Le premier à le mentionner en Occident, c'est Michel Servet, donc un médecin espagnol, qui d'ailleurs a terminé sa vie brûlé par Calvin à Genève, et qui le mentionne. Et il y a tout un débat pour savoir, n'a-t-il pas été influencé par la science arabe, puisque un médecin du XIIIe siècle, Ibn al-Nafis, mort en 1288, avait proposé cette même explication de la circulation pulmonaire. Alors, pendant longtemps, on a pensé que, bon, il l'a redécouvert lui-même, mais en fait, on sait que Ibn al-Nafis fait cette proposition dans son commentaire au Canon d'Avicenne, puisque, évidemment, des commentaires, j'en ai parlé dans le monde latin, mais il y en avait plein dans le monde arabe aussi, et que ce commentaire a été traduit par ce André Alpago, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a traduit alors, une partie du commentaire d'Ibn al-Nafis. Il n'a pas traduit la partie où il y a le passage sur la circulation sanguine, mais on sait qu'il y avait des notes sur les manuscrits arabes qui ont circulé ensuite à Padoue et qui ont, semble-t-il, été connues, hein, de différents auteurs. Bon, je passe sur les détails. Hein, il y a des annotations dans les éditions y compris, également sur des passages considérés. Et donc, il est tout à fait possible, hein, qu'il y ait eu cette influence. Et si André Alpago a traduit Ibn al-Nafis au début du XVIe siècle, c'est parce qu'il considérait que c'était utile, et notamment ces passages-là. Ibn al-Nafis est aussi innovateur dans d'autres domaines, notamment en anatomie. Ah, donc il y a encore des traductions de textes arabes, alors, qui ne sont pas très récentes, parce que c'est du XIIIe siècle, mais qui avaient complètement été ignorées des latins et qui ont continué à être l'objet d'intérêt pour les auteurs modernes. Un autre cas, Razi, hein, son traité sur la variole et la rougeole a été retraduit au XVIIIe siècle, et deux fois, et même retraduit encore au XIXe siècle. Alors la traduction du XIXe siècle que j'ai mise ici par Leclerc, c'est le même que celui que j'ai évoqué au début, qui a fait son histoire de la médecine arabe. Lui, c'est vraiment un intérêt historique. En revanche, les traductions du XVIIIe ont été faites parce qu'on pensait y trouver des choses intéressantes. Donc il y a encore des cas très rares. Alors Razi, c'est un médecin persan, hein, originaire de la région de Téhéran, qui était considéré comme un grand expérimentateur. Pas un philosophe, justement, mais quelqu'un qui avait des expériences. Et donc, ce qui a intéressé les médecins du XVIIIe siècle, c'est qu'est-ce qu'il raconte comme expérience, quel cas pratique il présente. Et donc, on a traduit ce court traité encore au XVIIIe siècle. Alors, je conclue, à peu près dans les temps. Du coup, c'est quand la date de la fin de la médecine arabe en Occident, puisque le XVIe siècle n'est pas une date, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des remises en cause, qu'il n'y a pas d'autres mouvements. Hein, je ne dis pas que ça fait toute la médecine de la Renaissance. Elle existe toujours, elle est encore très active et très dynamique. Quelle est la date? Eh bien, en fait, c'est le XVIIe siècle. Hein, puisque cette mention de Razi est vraiment anecdotique. Hein. Au XVIIe siècle, vous avez vu que les éditions du Canon d'Avicenne s'arrêtent au XVIIe siècle, et de fait, il n'y a plus de commentaires après. Alors, pourquoi le XVIIe siècle? Plusieurs explications. Est-ce que ce sont les découvertes du XVIIe siècle? Alors, notamment la circulation sanguine, mais les autres découvertes, l'utilisation du microscope, l'utilisation, enfin, toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites au XVIe et XVIIe siècle, qui, petit à petit, ont commencé à faire craqueler, hein, ce modèle un peu médical hérité du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Est-ce que c'est la révolution scientifique de manière générale, c'est-à-dire un mouvement global, y compris donc philosophique, hein, de réorganisation complète du savoir au XVIIe siècle, qui fait que ça a disparu? Est-ce que c'est enfin l'effondrement du système philosophique, c'est-à-dire tout le système, en gros, aristotélicien, qui soutenait la science médiévale depuis l'Antiquité, en fait, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle? Et bien, en fait, c'est un peu tout cela. Hein, c'est-à-dire que ce qui a fait la chute de la science arabe, c'est pas parce qu'elle était arabe, parce que tant que on continue à s'intéresser à cette médecine galénique adaptée au cadre aristotélicien, placée dans un système philosophique cohérent, ce qu'on appelait le galénisme, en fait, bien, tant qu'on utilisait ça, ben, la médecine arabe était utile, était intéressante, parce qu'elle présentait des synthèses, elle proposait des choses, des interprétations, etc. À partir du moment où on fait s'effondrer ce système philosophique global, ce qui a lieu au cours du XVIIe siècle, grosso modo, eh bien, la médecine arabe n'est plus utile. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ponctuellement, comme pour la variole, un intérêt précis pour une maladie. Bon, là, OK, il y a des choses qui peuvent être utiles. Mais tout ce système, ces grandes sommes qui ont été écrites par les Arabes, ben, elles ne sont plus utiles, pas parce qu'elles sont arabes, mais parce qu'elles sont, de fait, vraiment dépassées. Je vous remercie.
Je voudrais savoir ce qu'il y a comme traduction et comme édition moderne des textes.
Des textes arabes ?
Oui.
Moderne, contemporaine ?
Non, il est...
Je comprends, moderne, l'époque moderne ou contemporaine actuelle ?
Contemporaine.
Ah, d'accord. Bah, malheureusement, pour le canon, il n'y a pas grand-chose. En fait, pour les éditions arabes, l'édition qu'on utilise, en fait, concrètement, c'est l'édition qui a été faite au Caire, en fait, l'édition qu'on appelle la Boulak, donc du quartier du Caire où est installée l'imprimerie au 19e siècle, qui date de 1876 de mémoire, enfin, de cas de ces années-là, qui est une bonne édition, hein, qui est plutôt bien faite, même si ce n'est pas une édition critique. Donc, tout le monde utilise celle-là. Il y en a une autre qui a été faite en Inde, parce que, je n'ai pas mentionné, ça s'arrête en Occident au XVIIe siècle, mais la médecine gréco-arabe, y compris le canon d'Avicenne, a été utilisée en Inde jusqu'au début du XXe siècle, de manière active. Et encore aujourd'hui, ça fait partie des médecines traditionnelles indiennes. Il y en a 6. Et une d'elles, c'est la médecine yunani, qui veut dire, en fait, ionienne, c'est-à-dire grecque. Et en fait, quel est le manuscrit, le livre de base? C'est le canon d'Avicenne. Donc en Inde, dans un institut à New Delhi, je crois, ils ont refait une édition qu'ils présentent comme critique. Seulement, moi, je n'ai jamais réussi à la voir. Je ne sais pas où elle peut être. Un collègue de Manchester, Peter Portman, m'avait dit qu'il l'avait vue. Mais je ne sais plus où il l'a vu. Et bon, voilà.
En arabe,
voilà. Alors pour les éditions, la version latine, il n'y a aucune édition moderne, contemporaine. Donc moi, tout le monde utilise les éditions de la Renaissance qui ont été faites. Donc il y en a tellement qu'on peut choisir. On choisit celle qui... Moi, j'en ai pris une par habitude, mais voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Et il n'y a pas de traduction non plus en langage. Il y a une traduction du premier livre en anglais, date de 1930, mais qu'il ne faut pas trop utiliser parce que là, pour le coup, C'est super libre comme traduction, disons. C'est vraiment... voilà, il n'y en a pas en français. Cette traduction, c'est un peu le style Campanius, on va dire. C'est-à-dire qu'il met des trucs, puis après, il y a ses commentaires, mais il ne fait pas la distinction. C'est-à-dire que parfois, c'est Avicenne, puis après, c'est un commentaire qui explique ce qu'il dit Avicenne. On croit que c'est... Enfin, voilà. Donc, il vaut mieux pas trop l'utiliser. Ben, j'attends d'avoir 3 vies parce que c'est extrêmement long. Il y a énormément de manuscrits. J'avais proposé, il y a longtemps, avec Daniel Jacquard, on avait proposé à une maison d'édition de faire des extraits, mais ils n'ont pas été motivés. Donc,
Avant une traduction, est-ce qu'on a une édition critique du texte? Enfin, c'est déjà ça. De toute façon, c'est déjà, on n'a pas le texte
critique,
établi.
C'est infaisable.
Bah ouais.
Il y a à peu près, moi, j'ai fait une recension de tous les manuscrits latins. Il y en a à peu près 200 complets, plus. Beaucoup incomplets, des extraits, en sachant qu'un canon d'Avicenne complet, c'est un volume in folio, donc comme ça, de 500 folios, à peu près. Hein. Donc recto verso, c'est 1000 pages, écrit quand même tout petit. Dans les éditions arabes, ça fait 1300 pages. C'est un gros travail quand même d'édition. Donc, même pour une équipe, il faudrait une équipe sur 30 ans et un énorme financement. Donc, je pense que ce ne sera jamais fait, malheureusement. C'est dommage, mais...
J'ai une question ponctuelle. J'ai été assez frappé par le texte de Symphorien Champier que tu as présenté. En tout cas, il est assez rare, et je ne pense pas qu'il y ait d'exemple, mais tu me contrôleras peut-être au Moyen-Âge, d'une critique d'un médecin arabe sur la base religieuse. Parce que généralement, les choses sont bien compartimentées. Et c'est quelque chose de nouveau?
Oui, alors en fait, moi non plus, j'en ai jamais vu au Moyen-Âge, des critiques sur cette... Alors parfois, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout à fait conscience de la différence religieuse. Par exemple, dans des passages du commentaire de Gentile da Foligno, l'utilisation du vin comme médicament, il dit, bon ça je cite ça tout le temps, il dit, bon, Avicenne dit qu'il faut donner tant de vin, mais pour nous, il faut en donner plus, parce que les musulmans ne sont pas habitués à boire du vin, alors que nous, bon voilà... En Italie, on boit beaucoup. Et donc, pour que ça fasse effet, il faut en donner plus. Donc, ça montre bien qu'il savait, il avait connaissance du fait qu'il était musulman et qu'il s'adressait à une population. Mais ça ne l'intéresse pas du tout d'un point de vue religieux. Ça, je pense que très clairement, c'est les influences. Parce que Pétrarque, par contre, le dit. Des humanistes comme Pétrarque ou d'autres, qui ne sont pas des médecins, qui ne sont même pas des scientifiques, disent méfions-nous de ces auteurs qui sont hérétiques et qui donc vont nous tromper. Et donc, je pense que Saint-Florent Champier est influencé par cette tradition littéraire, on va dire, par littéraire. Ils sont humanistes, et pas du tout, parce qu'effectivement, moi, j'ai jamais rencontré ça au Moyen-Âge, ça les intéresse pas du tout. Ça, peu importe qu'ils soient musulmans ou quoi que ce soit, ce qui importe, c'est ce qu'ils disent.
Juste, je voulais faire une remarque à ce que tu viens de dire et ce que tu as dit au début. Ce qui me frappe, c'est que, effectivement, la figure emblématique de la Renaissance, c'est Pétrarque, et on met toujours ça en avant. Mais j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, tu l'as bien montré, c'est-à-dire qu'il a une position... un peu particulière, et tous tes médecins, voilà. Et je crois que tu as raison de signaler que c'est pas un scientifique. Et que, donc, je dois dire, on s'est pas concerté, hein, Joël et moi, on s'est pas parlé, et je suis ravie que nos exposés se répondent aussi bien, je pensais pas autant, je dois te dire. Mais tu arrives à la même conclusion que moi pour les mathématiques, c'est-à-dire que quand on a un médecin et qu'on a des textes de médecine arabe qui sont aussi importants, etc., on ne s'en prive pas. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est là aussi j'étais contente qu'on soit d'accord, c'est sur le barbare, la langue. Ce n'est pas la référence à l'arabe, tu as raison, c'est le latin. Enfin, moi, c'était pareil, en fait. C'est le latin qui les choque.
Alors oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que pour Pétrarque, son rapport à la médecine est absolument fascinant parce que bon, il déteste la médecine. Il a écrit une invective contre un médecin qui est une réponse insultante, parce que c'était des hommes qui insultaient, qui prenaient plaisir vraiment à l'invective. Et il écrit, il a des amis médecins, il en a plein. Et donc il leur écrit en leur disant « Ah, quel grand médecin tu es un grand savant, etc. » Et puis quand il écrit à d'autres, sur les mêmes bonhommes, il en dit beaucoup moins de bien. Et par exemple, j'ai traduit il n'y a pas longtemps une lettre. Tommaso del Garbo, qui est un médecin du milieu du XIVe siècle, écrit une lettre à Pétrarque. On voit bien qu'il a envie d'être copain avec Pétrarque, quoi. Donc il lui écrit, genre... Et Pétrarque lui répond très gentiment, en lui disant « Oh là là, tu m'as écrit une belle lettre, bon, je te réponds quand même. » Et puis quand il meurt, un peu subitement, Pétrarque tout de suite écrit à un autre correspondant disant « Tu vois ce que je dis ? Hein, lui, le meilleur médecin, etc. » Il est tombé malade, il est mort. Donc la médecine, c'est nul. Alors qu'au même, il disait « Ah, tu es le plus grand des savants, grâce à toi, tout le monde est sauvé de la mort, etc. » Donc voilà, il a un rapport avec la médecine qui est particulier et qui est drôle, en fait, pour te dire. Et sinon, pour ce qui est de la langue barbare, à part Pétrarque qui dit que la langue arabe est moche, les autres n'ont pas une vraie connaissance, ça ne les intéresse pas plus que ça. Et même ceux qui, au XVIe siècle, apprennent l'arabe, en fait, une passion pour cette langue. Ils ont vraiment du plaisir à la connaître. Donc là aussi, c'est vraiment le latin transmis. Et aussi, bon, du coup, le latin tiré du grec, puisque c'est plus beau de lire galien dans le texte que de le lire dans une traduction médiévale.
Je ne pose une question, une fait une remarque s'il n'y en a pas dans la salle. Non, je me tourne là du côté des étudiants. Oui, j'aimerais juste faire une remarque sur la question de la Renaissance que tu as évoquée au début de ta communication en parlant d'un retour à l'Antiquité. Je crois qu'il faudrait rompre avec cette idée de retour qui évidemment suppose une rupture, une séparation, un divorce. Il vaudrait mieux parler d'un nouveau type de relation, voire de liaison de la Renaissance avec l'Antiquité, la récupération des commentaires médiévaux que tu as signalé en cours d'exposé indique bien que il y a un enchaînement qui se fait, que les choses se pensent pas sur le mode de l'exclusion. Mais ça, on le sait bien. Les historiens ont bien montré que la Renaissance dont il est question ici n'est que la troisième d'une série voilà, qui commence par celle carolingienne, qui s'articule ensuite autour de celle du XIIe et celle du XVIe ne faisant que reprendre les choses, en articulant évidemment des singularités. Il ne s'agit pas de réduire la singularité des choses, évidemment. Bon, il y aurait toute une série de questions que j'aimerais poser. Par exemple, le médecin flamand qui tient le livre qui commence par le canon d'Averroès, qui est le canon d'Averroès, tient aussi dans ses mains une feuille de notes. Est-ce que l'écrit qui est sur cette feuille est un écrit fictif ou un écrit réel qui est identifiable? Bon, c'est le fétichisme de l'écrit là qui guide ma question. J'aimerais aussi savoir comment Gentile et la Foligno conjuguent ou concilient la juste quantité qui suppose a priori une certaine économie et l'abondance qu'ils donnent comme deuxième point. Et puis, dernier élément de remarque, la question du Barbarousse. Je pense qu'il faudrait effectivement la ressaisir dans sa dimension diachronique à partir des rhétoriques antiques et médiévales, où évidemment là se décline tout un champ de nuances possibles de ce Barbarousse qui, il m'en touche évidemment à la langue, à une forme d'altérité ou d'étrangeté de la langue, qui touche moins à l'individu en tant que humain que à ses formes d'expression. Et puis, il est difficile de parler de Barbarousse à Poitiers sans évoquer Guillaume le troubadour qui, dans l'une de ses chansons, met en scène un pèlerin que rencontrent deux épouses auvergnates, ça se passe par Tlémousy, un pèlerin qui se donne des airs un peu simple, de simplet. Les deux épouses en mal d'aventure flairent le bon coup et pensent qu'il est muet, mettent à l'épreuve son mutisme, et pour exprimer son mutisme, le pèlerin dit babariol, babariol, babariane, qu'on a rapproché, une barbarolexie, donc qu'on a rapproché de Barbarousse, et qu'un manuscrit transcrit de façon complètement différente dans une espèce de galimatia pseudo-arabe que les spécialistes ont réussi à lire et à interpréter. Et donc je pense que là, dans le champ du Barbarousse, Guillaume de Poitiers pourrait occuper une petite place.
Voilà. Alors, j'ai remis l'image, mais moi j'avais regardé là, franchement, je n'arrivais pas à lire ce qui était. Peut-être que c'est. Là, il faudrait que je le prenne, le tableau, que je le retourne, je le regarde de près. Moi, j'ai pas pu faire ça. Peut-être c'est des notes, effectivement. Peut-être c'est un conseil, une consultation. Enfin, ça pourrait être plein de choses. Donc, il est difficile de dire si c'est.
Est-ce que c'est de l'écrit ou de
pseudo-écrit? Franchement, je sais pas si vous arrivez à voir, mais moi, je suis perplexe. Pour ce qui est de... Alors, sur la Renaissance, je suis tout à fait d'accord. En fait, effectivement, ce n'est pas du tout un retour à l'antique, parce qu'il n'y a jamais eu de départ, en fait. Donc, j'ai dit ça vraiment par habitude et mauvaise habitude. Mais ce qui change, de fait, c'est le rapport philologique, disons. Et notamment, on voit ça, y compris pour les textes arabes, puisque quand un Gentile da Foligno, dans la première moitié du XIVe siècle, ne comprend pas le texte du canon d'Avicenne, il essaie de comprendre tout seul, c'est-à-dire il réfléchit comment interpréter le texte, ou alors il va demander à quelqu'un, mais il demande à qui ? Il demande à des... il compare le texte hébreu, en fait. Ce qui paraît bizarre, en fait, dans une démarche philologique un peu cohérente. Déjà, on pourrait regarder d'autres manuscrits pour voir s'il n'y a pas des variantes. Or, il ne fait pas du tout ça. Et il va demander à un juif de Pérouse en lui disant, dans ton manuscrit, t'as quoi ? Ça pourrait marcher. Bon, voilà. Or, au XVe siècle, apparaissent un Jacques Despard, première moitié du siècle, collation de plein de manuscrits pour vraiment avoir un texte plus sûr. Et à la fin du 15e, des médecins reviennent au texte arabe pour vérifier les passages problématiques. Donc là, il y a un rapport pour le texte arabe, mais c'est évidemment le cas pour le texte grec, bien sûr, on va repartir. Un rapport à la philologie qui est de fait différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas les textes antiques, c'est juste qu'on a un rapport qui a changé. C'est exactement ce que vous avez dit. Et enfin, pour Barbare, il y a cette peut-être particularité que, pour le monde arabe, barbare, c'est le terme pour désigner les berbères. La barbarie, c'est l'Afrique du Nord. Les morts, c'est les barbares. Donc du coup, là aussi, peut-être il y a un jeu. On ne peut pas tirer au-delà de tout, mais enfin, C'est un terme voilà, qui est vraiment polysémique et qui effectivement mériterait une étude très longue. Oui, mais en fait, le thème... Oui, mais y compris en arabe d'ailleurs, Averroès a risqué sa tête un jour parce qu'il a dit dans un repas, enfin on a dit au calife Almohad, qui était berbère, hein, qui était du Maroc, on lui a dit « Ah, Averroès a dit que tu étais le roi des barbares, des berbères ». Et donc, quand le calife a dit ça, il a dit « On l'exécute ». Et Averroès a dit « Non, attendez, j'ai une explication ». Et il fait un jeu de mots en arabe en disant « J'ai dit que tu étais le roi des deux mers, des deux rives de la mer, donc du nord et du sud, qui ressemblent vaguement en arabe ». Et donc, la polysémie existait déjà aussi en arabe. Donc, en fait, la barbarie, c'est vraiment le pays des berbères, mais enfin, c'est barbare aussi. Donc, voilà.
Donc, merci à tous nos intervenants, à nos deux intervenantes ce matin. Donc, on reprend la séance, cet après-midi à 14h. Donc, on va fermer la salle.